Un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Un nouvel espoir sur le front du coronavirus. Le laboratoire américain Moderna affirme avoir mis au point un vaccin efficace à 94,5% contre la Covid-19. C'est mieux que le vaccin Pfizer qui affichait la semaine dernière un taux d'efficacité de 90%. En Belgique, le virus a déjà tué plus de 14 000 personnes et le pays a le taux de mortalité le plus élevé au monde. Amnesty International accuse les autorités belges d'avoir abandonné les maisons de retraite du pays. En Italie, le système hospitalier est sous tension face à la deuxième vague. À Naples, des patients attendent dans leur voiture avec une bouteille d'oxygène leur admission à l'hôpital. Le reportage de notre correspondant en Italie, Bruce de Galzin. Quelle revalorisation pour les enseignants? Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, doit préciser ses objectifs aujourd'hui. Mais on sait déjà que tous les enseignants ne bénéficieront pas d'une revalorisation salariale. Enfin, l'ouverture aujourd'hui à Paris du procès de l'attentat des jouets du Thalys. En août 2015, le Marocain Ayoub El Kazani avait été désarmé par des passagers alors qu'il s'apprêtait à commettre un massacre à la Kalachnikov dans le train. Il a reconnu les faits aujourd'hui. Il faut bien sûr rester extrêmement prudent, mais depuis une semaine, les bonnes nouvelles se succèdent sur le front de la recherche vaccinale. Après Pfizer et l'allemand BioNTech, un autre laboratoire américain, Moderna, annonce avoir mis au point un vaccin efficace à plus de 90% contre la Covid-19, 94,5% exactement. Il faut aussi mentionner le vaccin russe Sputnik V, qui lui affiche une efficacité de 92%. Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Washington, Sébastien, le vaccin Moderna a un avantage revendiqué sur celui de Pfizer. Il se conserve plus facilement et plus longtemps.
Oui, c'est le point faible mis en avant pour le vaccin Pfizer, sa conservation à moins 70 degrés, alors que celui de Moderna peut l'être à moins 20 degrés, d'après le communiqué publié aujourd'hui. C'est la température d'un congélateur classique. Surtout, l'entreprise installée à Cambridge, dans le Massachusetts, revendique une efficacité encore plus élevée que ses concurrents, vous l'avez dit, 94,5%, avec un essai clinique qui porte sur 30 000 personnes en ce moment, ici aux États-Unis, dont des personnes à risque, notamment âgées ou qui souffrent d'autres pathologies. Elles sont divisées en deux groupes, un groupe vacciné et un groupe placebo. Et d'après l'analyse des premiers cas, 90 personnes de la branche placebo ont attrapé le Covid contre seulement 5 parmi celles qui ont reçu les deux injections de vaccin à 28 jours d'écart. Alors on ne sait pas quelle est l'efficacité du vaccin dans le temps, c'est trop tôt pour le dire, mais un taux à 94,5%, c'est excellent si c'est confirmé à l'échelle de toute la population. Ce serait même l'un des vaccins les plus efficaces qui existent, presque autant que celui, par exemple, contre la rougeole, qui est efficace à 97%. Moderna va demander une autorisation d'utilisation d'urgence dans les prochaines semaines aux États-Unis. Il faut 2 mois de recul et l'essai a commencé le 17 septembre. Le dossier sera donc complet demain. Mais il faut rester prudent. La société de biotechnologie a été fondée il y a 10 ans. Elle travaille sur des vaccins, notamment contre Zika, mais elle n'a toujours aucun produit autorisé sur le marché. Si son vaccin avait le feu vert, il se serait écoulé à peine 1 an depuis l'apparition du virus, alors qu'il faut en moyenne 8 ans pour développer un vaccin ici aux États-Unis.
Sébastien Paour en direct de Washington, merci. On l'a bien compris, il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'envisager des campagnes de vaccination massives. En attendant, la deuxième vague continue à frapper durement toute l'Europe. La Belgique est redevenue ces derniers jours le pays le plus endeuillé au monde, rapporté à sa population, avec près de 14 500 morts pour 11,6 millions d'habitants. Le taux de mortalité belge est à nouveau supérieur à celui du Pérou. C'est dans ce contexte qu'Amnesty International publie un rapport très sévère sur la Belgique. L'ONG accuse les pouvoirs publics belges d'avoir abandonné les maisons de retraite. Les explications de Pierre Benazé.
En Belgique, on a oublié les personnes âgées dans les maisons de retraite et on les y a laissées mourir, affirme le rapport accablant d'Amnesty International. Absence de soins, pas de visite de parents ou de médecins, manque parfois même de nourriture ou d'eau. En Belgique, 61% des décès dus au Covid se sont produits en maison de retraite, alors que pour la Wallonie et Bruxelles, par exemple, seuls 10% de la population âgée y réside. Trop de ministres de la Santé, trop de niveaux de décision sans hiérarchie entre eux, n'ont pas aidé à prendre des décisions valables pour l'ensemble du pays, selon Philippe Hensmans, directeur de la section francophone d'Amnesty pour la Belgique.
Il a fallu beaucoup de temps pour que les ministres, qui sont les ministres régionaux, prennent la décision d'écrire et de dire à un moment donné, il ne peut pas y avoir pouvoir de discrimination. Vous ne pouvez pas interdire à des personnes de maisons de repos de rentrer dans les hôpitaux. Il faut examiner chacun individuellement. Et ça, ça a pris beaucoup de temps, alors que beaucoup de directions, et parfois les ambulanciers eux-mêmes, avaient compris qu'il fallait éviter au maximum de laisser rentrer les personnes âgées dans les hôpitaux, ce qui a provoqué la mort de beaucoup d'entre elles.
Amnesty demande que tous les gouvernements permettent des inspections indépendantes dans les maisons de retraite pour garantir les droits de base des résidents, que sont le droit à la santé et le droit à la vie. Et suite à la publication de ce rapport, Amnesty a reçu ce lundi de nouveaux témoignages de personnel des maisons de retraite. Ils estiment que les conditions de soins des résidents sont toujours aussi dramatiques.
Pierre Benazé, notre correspondant à Bruxelles. L'Italie fait aussi partie des pays européens les plus éprouvés par la deuxième vague du virus. En Campanie, la région de Naples, la pression sur le système hospitalier est énorme. De nombreux habitants inquiets se ruent à l'hôpital au moindre symptôme. Résultat, des hôpitaux débordés et des patients qui attendent pour certains leur admission dans leur voiture avec une bouteille d'oxygène. Le reportage à Naples de Bruce de Galzin.
L'ambulance vient de rentrer. Il faut la nettoyer, la désinfecter avant de repartir. En ce moment, c'est surtout la nuit que Sabato, le conducteur, Carolina, l'infirmière et Francesco, le médecin, font leur quart de 12 heures. Mais à chaque fois, c'est le même refrain. Il n'y a pas assez de place à l'hôpital, explique Sabato.
C'est la centrale opérationnelle qui nous indique dans quel hôpital on peut aller. Même s'il n'y a pas de lit, ils nous disent de rester là, aux urgences, en attendant qu'un lit se libère. Et à chaque fois qu'on est bloqué devant les urgences, ça fait une ambulance médicalisée en moins pour notre zone.
D'autres patients ne sont donc pas pris en charge pendant que l'ambulance attend, et cela peut être interminable. Il y a quelques jours, le trio a passé plus de 24 heures dans l'ambulance avec une patiente. Ce n'est plus gérable pour Caroline, l'infirmière de 24 ans.
On a transformé l'ambulance en chambre d'hôpital car la patiente est restée 26 heures dans l'ambulance avant d'être admise. On avait peur pour elle et pour nous parce qu'on est en contact pas seulement quelques minutes mais 26 heures dans un lieu fermé et pas vraiment grand. C'est dur à dire, mais on devait attendre qu'un autre patient meure pour pouvoir entrer et ça c'est vraiment déstabilisant.
La peur c'est aussi de contaminer les autres. Alors Carolina comme Sabato et Francesco sont ultra protégés grâce à une blouse blanche étanche, pas un centimètre de peau n'est exposé. Il porte un masque noir comme un masque à gaz, un casque et une visière. Pour Francesco, le médecin, les services sanitaires sont tellement dépassés qu'il faut reconfiner.
Par rapport à la première vague, on est dans une autre dimension, c'est incroyable. Et j'ai l'impression, malheureusement, que nos politiciens ne voient rien. Ils ne veulent pas voir la gravité de la situation. Ça doit s'arrêter. Il y a une paralysie totale des services de santé qui n'arrivent plus à gérer. J'en veux à ceux qui savent, qui voient et qui ne font rien.
Dans leur viseur, le président de la région Campanie, le shérif De Luca, qui n'a cessé de nier que les hôpitaux étaient débordés. C'est finalement l'État qui vient de décider de créer des zones rouges en Campanie.
Bruce de Galzin, notre correspondant en Italie. En France, en revanche, les autorités affichent un optimisme prudent. Nous sommes en train de reprendre progressivement le contrôle de l'épidémie, affirmé ce matin à Lyon Olivier Véran. Mais les Français doivent poursuivre leurs efforts car il y a encore beaucoup de malades, s'est empressé d'ajouter le ministre de la Santé. Dans ces conditions, la réouverture des magasins dits non essentiels fin novembre ou début décembre reste une pure hypothèse. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a refusé aujourd'hui de prendre un quelconque engagement. Conséquence, les manifestations de commerçants en colère se multiplient. Ils étaient plusieurs centaines à Perpignan pour une matinée funèbre. À Lyon aussi, un millier de personnes ont défilé cet après-midi sous le slogan « On veut travailler ». Le reportage de Mathilde Imberti.
Ce sont des commerçants essentiellement qui se sont rassemblés place Bellecour, vêtus de noir, c'était le mot d'ordre. Pierre Ollier gère un magasin d'habillement à deux pas de là. Les garçons, rideau baissé et petit moral.
Parce que bon, le premier confinement, c'était pas encore des trop gros mois, mais là on est vraiment sur des gros mois, parce que vous voyez, rien que le mois de novembre, pour nous, c'est autant que le mois de mars et le mois d'avril, en chiffre d'affaires. Parce que là, on tient, mais il y a un moment, ça va vraiment se compliquer.
L'objectif pour ce commerçant et les autres, ouvrir le 27 novembre pour ne pas laisser filer le Black Friday qui s'affichera sur tous les sites de vente en ligne. Jean-Sébastien Veilleux préside la Fédération de l'habillement dans la région.
La bataille, c'est vraiment le 27 novembre et on est content d'entendre ce matin de la bouche de Bruno Le Maire qu'il y pense. Donc il faut aller plus loin d'y penser, il faut nous le confirmer. Et puis ensuite, il y a qu'est-ce qu'on fait pour sauver tous les gens qui sont au bord du gouffre et dont la réouverture ne va pas régler les problèmes.
Si ces commerces commencent à se projeter vers une réouverture, les bars et les restaurants n'ont aucune perspective, regrette Laurent Duc, le président de l'UMI, la principale fédération du secteur, et pour lui, les dégâts vont être colossaux.
En mars, on aura un tiers des entreprises qui ne passeront pas le printemps et on va mettre 250 000 personnes au chômage. Il n'y a pas de négo. Nous, on est le variable d'ajustement. On passe systématiquement à la trappe.
Le cortège se dirige vers la préfecture où une délégation va être reçue, mais les commerçants ne s'attendent pas à de nouvelles annonces dans l'immédiat.
Voilà pour ce reportage à Lyon de Mathilde Imberti. Pour aider l'économie française à absorber le choc de la crise sanitaire, le gouvernement compte sur son plan de relance de 100 milliards d'euros. Ce plan a fait l'objet d'une étude publiée aujourd'hui par deux organismes, l'Institut des politiques publiques et le CEPREMAP, le Centre pour la recherche économique et ses applications. Le choc vécu par les entreprises est hétérogène et sans précédent. Partant de ce constat, Marie Viennot, les chercheurs ont voulu identifier les secteurs les plus touchés et si les aides distribuées avaient bien atteint leur cible.
Premier constat, un quart des entreprises françaises ont vu leurs chiffres chuter de plus de 50% en mars et avril, mais un quart n'ont pas été impactés par le premier confinement. Deuxième constat, seulement 1%, si on peut dire, des entreprises qui ont subi le choc le plus important ont fait faillite à ce jour, ce qui laisse à penser que les mesures d'aide ont bien en partie atteint leur cible. Autre élément important, ces mesures d'aide représentent 5% de la valeur ajoutée pour les petites entreprises et 2% pour les plus grandes. En proportion, donc, il y a bien un effort plus marquant pour les entreprises de petite taille. En revanche, les chercheurs notent que 40% des entreprises qui ont été le plus affectées par le premier confinement ne sont pas dans les secteurs les plus soutenus, comme le tourisme ou l'hôtellerie-restauration, ce qui montre que la politique de ciblage des aides par secteur n'est pas 100% pertinente. Voilà pour les mesures de soutien adoptées en 2020. Si on s'intéresse au plan de relance, les chercheurs relèvent que le secteur qui va le plus bénéficier de la baisse des impôts de production est celui des mines, de l'énergie, de la gestion des déchets peu affectés par la crise. En revanche, cette baisse profitera moins aux entreprises qui ont subi les plus fortes baisses de chiffre d'affaires durant le premier confinement. Tous ces calculs s'arrêtent à fin octobre et ne tiennent donc pas compte du deuxième confinement. L'effet devrait être entre un tiers et deux tiers moins important que pour le premier, estiment les chercheurs, mais c'est une moyenne, car les secteurs qui sont comme au premier confinement totalement arrêtés, on pense à la culture et aux restaurants, connaîtront un choc semblable au premier.
Marie Viennot, merci. Un coup d'arrêt pour le budget et le plan de relance européen. La Hongrie et la Pologne ont opposé leur veto au projet laborieusement approuvé en juillet par les États membres. Budapest et Varsovie refusent le mécanisme qui prive de fonds européens les pays membres accusés de violer l'état de droit. Jean Castex et Gérald Darmanin ont reçu aujourd'hui en visioconférence les représentants des différentes religions en France. À l'ordre du jour, la reprise des cultes, réclamée notamment par de nombreux catholiques qui ont manifesté par milliers hier. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Pierre, le Premier ministre a fermé la porte à une reprise rapide des cultes, en tout cas pas avant le mois de décembre.
Oui, le moment n'est pas venu de desserrer l'étau, pas plus pour les commerçants que pour les croyants, quelle que soit leur religion, et même les pressions qui ont pu être exercées hier dimanche devant les églises. Jean Castex a défini un cadre et un agenda pour lever le confinement. Il s'y tient. Pas question d'assouplir pour le moment le dispositif. Les églises restent ouvertes, les célébrations publiques sont toujours interdites, à l'exception des cérémonies funéraires. Au culte, en revanche, de préparer un dispositif sanitaire strict, pour la reprise des offices, c'est ce qu'explique le président de la Conférence des évêques de France. Une date est avancée à partir du 1er décembre prochain. La décision sera prise après un rapport d'étape sanitaire d'ici la fin du mois. On le voit, le Premier ministre ne veut pas nourrir de faux espoirs. Il appelle à rester vigilant. Reste maintenant la question des célébrations de Noël. Elle sera tranchée par Emmanuel Macron. Aussi en fonction des conditions sanitaires.
Pierre Neveu, merci. Jean-Michel Blanquer doit préciser aujourd'hui le contour des revalorisations salariales promises aux enseignants. Il s'agit d'un engagement du ministre de l'Éducation antérieur à la crise sanitaire. Le virus a bien sûr changé la donne et le ministre a dû en partie revoir sa copie. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas Vazak.
On sait d'ores et déjà, Hakim, que tous les enseignants ne bénéficieront pas de cette revalorisation.
Et oui, il faudra encore attendre car la prime va surtout bénéficier à 31% des enseignants à partir de mai prochain et surtout aux jeunes enseignants, ceux qui auront entre 1 an et 3 ans d'ancienneté, une prime de 100 euros par mois. Quant aux autres, ceux qui pourront bénéficier et qui auront jusqu'à 40 ans à peu près, eh bien, ils n'auront que entre 20 et 40 euros par mois, d'où la grande déception des syndicats qui auraient souhaité une loi de programmation pluriannuelle qui aille au-delà de 2021. Jean-Rémy Girard, le président du SNALC.
Si on ne fait que un petit truc en 2021 et plus rien après, ça voudra dire qu'on a globalement quasiment rien fait. Et ça, ce ne sera pas acceptable. Donc on a besoin de cette garantie d'une revalorisation qui est inscrite dans le temps long. Si elle ne l'est pas, ça veut dire qu'effectivement, le métier d'enseignant ne sera pas revalorisé réellement et que les problèmes que l'on connaît, par exemple, en termes de recrutement, vont s'enraciner.
Jean-Michel Blanquer a également confirmé la prime numérique de 150 euros par an afin que les enseignants puissent s'équiper en matériel informatique. On l'a vu, il y avait un grand manque, notamment pendant le confinement avec les cours en distanciel. Le ministère de l'Éducation qui confirme également une prime pour les directeurs d'école avec une enveloppe de 21 millions d'euros. Mais pour l'instant, pas de précision sur le montant de cette prime. Est-ce que ça sera 250 euros comme cette année, plus ou moins? Le ministère ne l'a pas encore confirmé. Le ministère qui a juste confirmé, en revanche, qu'il y aura 600 postes de plus d'enseignants afin de décharger les directeurs d'école, mais là aussi, sans indiquer quel type d'école seront concernées.
Hakim Kasmi, merci. Le procès de l'attentat déjoué du Thalys s'est ouvert aujourd'hui à Paris, dans le box des accusés. Le djihadiste marocain Ayoub El-Kazani, le 21 août 2015, dans le train Amsterdam-Paris, il avait tenté de commettre un carnage à la Kalachnikov, mais plusieurs passagers, dont des soldats américains, avaient réussi à le désarmer. Le compte-rendu d'audience de Florence Sturm.
À la question « Reconnaissez-vous l'ensemble des faits qui vous sont reprochés ?», il acquiesce d'un simple oui et d'un hochement de tête. Le président insiste, y compris des tentatives d'assassinat sur un certain nombre de personnes dont j'ai donné les noms. Oui, confirme l'accusé, cheveux noirs tirés en catogan, chemise en jean clair ouverte sur un t-shirt blanc. Il a 31 ans aujourd'hui, il en avait 25 le 21 août 2015, quand il est monté dans le Thalys 93-64 en gare de Bruxelles, lourdement armé. Premier acte du procès, l'interrogatoire de personnalité ne livre que peu d'indications sur son parcours. Dialogue laborieux malgré l'intervention d'un interprète, je comprends le français, a-t-il indiqué, mais je cale parfois sur les mots. La famille marocaine se regroupe autour du père, Al-Jaziras en Espagne, lui arrête l'école, bascule dans le trafic de drogue, refuse la demande des autorités espagnoles d'infiltrer une mosquée pour leur fournir des informations. Mais que dire de votre engagement religieux, interroge le président. J'ai appartenu au mouvement de l'État islamique à un moment donné, répond Ayoub El-Razani, mais je suis juste musulman, pratiquant comme les gens normaux, 5 prières et le ramadan. J'assume, déclare-t-il, je ne suis pas gratuitement en prison, mais je mérite d'être là. À ses côtés, 3 hommes vont devoir répondre de complicité et d'association de malfaiteurs terroristes, le passeur, l'éclaireur et le chauffeur Mohamed Bakali, également renvoyé dans le procès des attentats de novembre 2015. 4 accusés et l'ombre d'un 5e, Abdelhamid Abaoud, considéré comme le cerveau des attentats contre le Bataclan et les terrasses, qui les a tous recrutés au moment où ils commençaient à constituer la cellule terroriste qui allait frapper à nouveau quelques mois après le Thalys à Paris et Bruxelles.
Florence Thion depuis le Palais de Justice de Paris avec Sandrine Malon pour les moyens techniques. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui à l'Élysée le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Visite a priori banale sur un agenda diplomatique, sauf que Mike Pompeo fait partie de ceux qui à Washington refusent de reconnaître la victoire de Joe Biden. La France, elle, a déjà les yeux tournés vers le futur président démocrate, Christian Chéneau.
Dans sa tournée diplomatique d'adieu, Mike Pompeo a tenu à faire escale à Paris. Le secrétaire d'État américain est ensuite attendu en Turquie, en Géorgie, en Israël et dans les pays du Golfe. Comme le souligne l'Élysée, c'est à sa demande qu'il a rencontré Emmanuel Macron pour des entretiens, ainsi que le patron du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian. Ce rendez-vous diplomatique s'est déroulé dans la discrétion, à l'abri des micros et sans déclaration au terme de ces entrevues. Bref, une visibilité à minima pour une visite qualifiée de travail par un diplomate français. Officiellement, Mike Pompeo est venu pour parler avec le président français du lien transatlantique, des menaces globales, c'est-à-dire du terrorisme et de la sécurité, face à la possible accélération du retrait des troupes américaines d'Afghanistan et d'Irak. La France a redit qu'elle souhaitait voir le maintien du dispositif américain sur place, compte tenu de la menace encore forte du groupe État islamique. Sur le dossier iranien, ce n'est pas à la 25e heure que l'on va découvrir la position américaine qui n'est pas celle de la France, a indiqué une source diplomatique. Si techniquement la diplomatie française a des rendez-vous avec l'administration l'administration Trump, notamment dans le cadre de réunions à l'OTAN et à l'OSCE. Paris a surtout hâte de travailler avec le nouveau locataire de la Maison Blanche.
Christian Chesneau, merci. Un mot du temps demain, calme et doux sur l'ensemble du pays en raison de l'anticyclone. Un peu partout, les grisailles seront tenaces le matin avant de se dissiper en cours de journée. Les températures minimales seront comprises entre 3 et 12 degrés selon les régions. L'après-midi, il fera de 11 à 16 degrés sur la moitié nord, de 13 à 21 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.